Joseph Merlin, l'envoyé du ministère, pénétra dans le cimetière comme un saint à la tête d'une procession. Ses immenses godasses éclaboussaient toutes en passant dans les flaques. On remarqua à cet instant seulement qu'il portait une vieille sacoche de cuir. Elle avait beau être bourrée de documents, elle semblait se balancer à l'extrémité de son bras comme une feuille de papier. Il s'arrêta. Derrière lui, la procession se figea, inquiète. Il regarda longuement le décor. Il régnait en permanence sur le cimetière une odeur âcre de putréfaction, vous arrivant parfois en pleine figure, comme un nuage déplacé par le vent, qui se mêlait à la fumée des cercueils sortis de terre, abîmés ou hors d'usage, et que le règlement exigeait de brûler sur place. Le ciel était bas, d'un gris sale, on voyait ici et là des hommes transportant des bières ou penchés sur des fosses. Deux camions laissaient leur moteur tourner, tandis qu'on hissait dessus des cercueils à bout de bras. Merlin fit bouger son dentier, plissa ses grosses lèvres. Voilà à quoi il en était rendu. Près de 40 ans de fonction publique, et à la veille de la retraite, on l'envoyait faire la tournée des cimetières. Merlin avait servi successivement au ministère des colonies, au ministère du ravitaillement général, au sous-secrétariat d'État au commerce, à l'industrie, au poste et au télégraphe, au ministère de l'agriculture et du ravitaillement, 37 années de carrière, 37 années à être foutu à la porte de partout, à tout rater, battu à plate couture dans tous les postes qu'il avait occupés. Merlin n'était pas un homme qui plaisait. Taciturne, un peu pédant, sourcilleux et de mauvaise humeur d'un bout à l'autre de l'année, pour plaisanter avec lui, cet homme laid et antipathique n'avait cessé d'encourager, par son attitude orgueilleuse et sectaire, les malveillances de ses collègues et les revanches de ses chefs. Il arrivait, on lui donnait une tâche, et on se fatiguait de lui parce que, très vite, on le trouvait ridicule, désagréable, passé de mode, on commençait à rire dans son dos, à lui attribuer des surnoms, à faire des blagues, il avait eu droit à tout. Pourtant, il n'avait jamais démérité. Il pouvait même citer la liste de ses hauts faits administratifs, liste parfaitement à jour, qu'il ressassait en permanence afin de masquer le bilan d'une carrière lugubre, d'une probité sans récompense, entièrement consacrée à se faire mépriser. Parfois, son passage dans certains services avait carrément ressemblé à un bizutage sans fin. À plusieurs reprises, il avait dû lever haut sa canne et faire des moulinets en tonnant de sa grosse voix, excédée, prête à en découdre avec la terre entière. Il avait fait vraiment peur, surtout aux femmes. Vous comprenez, maintenant, elles n'osent plus s'approcher. Elles veulent être accompagnées. On ne peut pas conserver un type comme ça, d'autant que, honnêtement, comment dire, il ne sent pas très bon, cet homme-là. C'est assez incommodant. On ne l'avait gardé nulle part. Il n'avait eu, dans sa vie, qu'une courte période de luminosité qui s'étendait de sa rencontre avec Francine un 14 juillet au départ de Francine avec un capitaine d'artillerie à la Toussaint suivante. Le tout, 34 ans plus tôt. Finir sa carrière en inspectant les cimetières n'avait rien de surprenant. Un an que Merlin avait atterri au ministère des pensions, primes et allocations de guerre. On se l'était passé d'un service à l'autre, puis un jour, on avait reçu des informations gênantes en provenance des cimetières militaires. Tout ne se déroulait pas normalement. Un préfet avait signalé des anomalies à Dampierre, il s'était rétracté dès le lendemain, mais il avait attiré l'attention de l'administration. Le ministère devait s'assurer que l'État dépensait à bon escient l'argent du contribuable pour enterrer dignement et dans les conditions fixées par les textes, les fils de la patrie qui, etc., etc. Et merde, dit Merlin en regardant ce spectacle de désolation. Parce que c'était lui qui avait été désigné. On lui avait trouvé le profil parfait pour un emploi dont personne ne voulait. Direction des nécropoles. L'adjudant Tournier l'entendit. « Pardon ?» Merlin se retourna, le regarda. Depuis Francine et son capitaine, il détestait les militaires. Il revint au spectacle du cimetière avec l'air de prendre soudain conscience de l'endroit où il se trouvait et de ce qu'il était censé y faire. Les autres membres de la délégation restèrent perplexes. Dupré se risqua enfin. « Je propose qu'on commence par... » Mais Merlin demeurait là, planté comme un arbre devant ce décor affligeant qui faisait un étrange écho à sa tendance habituelle, à la persécution. Il décida alors d'accélérer les choses, de se débarrasser de la corvée.
« Faut chier !»
Cette fois, tout le monde entendit distinctement, personne ne sachant ce qu'il fallait en conclure. Les registres d'état civil conformes aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1915, l'établissement des fiches évoquées dans la circulaire du 16 février 1916, le respect des ayants droit prévus à l'article 106 de la loi de finances, mouais, disait Merlin, cochant ici, signant là. L'atmosphère n'était pas détendue, mais tout se déroulait normalement. Sauf que ce type puait comme un sconce. Quand on se trouvait dans la baraque réservée à l'état civil, en tête-à-tête avec lui, c'était intenable. Malgré le vent glacé qui s'engouffrait dans la pièce par rafale, on s'était résolu à laisser la fenêtre ouverte. Merlin avait commencé l'inspection par un tour du côté des fosses. Paul Chabord s'était empressé de tendre au-dessus de sa tête un parapluie à bout de bras, mais... L'envoyé du ministère se révélant imprévisible dans ses mouvements, ses brusques changements de direction découragèrent la bonne volonté de l'employé qui s'abrita lui-même. Merlin ne s'en aperçut pas. Le crâne dégoulinant de pluie, il regardait les fosses, l'air de ne pas comprendre ce qu'il y avait à inspecter. Puis, on s'en fut du côté des cercueils. On lui détailla les procédures, il chaussa des lunettes au vert gris et rayé, on aurait dit des pots de saucisson. Il compara les fiches, les états, les plaques apposées sur les bières, puis « bon, allez, ça va comme ça », grommela-t-il, on n'allait pas y passer la journée. Il sortit une grosse montre de son gousset et, sans avertir personne, se dirigea à grandes enjambées résolues vers la cahute de l'administration. À midi, il achevait de remplir ses états d'inspection. Le voir travailler permettait de mieux comprendre pourquoi son veston était constellé de taches d'encre. Et maintenant, tout le monde devait signer. « Chacun ici fait son devoir », annonça martial et satisfait l'adjudant Tournier.
« C'est ça »,
répondit Merlin. Une formalité. On était debout dans la cahute, se repassant le porte-plume comme le goupillon un jour d'enterrement. Merlin posa son gros index sur le registre, ici le représentant des familles. L'Union nationale des combattants rendait suffisamment de services au gouvernement pour avoir un droit de présence à peu près partout. Merlin, d'un œil sombre, regarda Roland Schneider paraffé.
« Schneider !»
dit-il. Il prononçait « Schneider » pour bien souligner son propos.
« Ça sonne un peu allemand, ça, non ?»
L'autre se cabra aussitôt sur ses ergots.
« Bon, peu importe !»
le coupa Merlin en désignant de nouveau le registre.
« Ici, l'officier d'état civil. »
La remarque avait jeté un froid. La signature s'acheva en silence.
« Monsieur !»
commença Schneider, qui venait de reprendre ses esprits.
« Votre réflexion !»
Mais déjà Merlin était debout, le dépassant de deux têtes, se penchant vers lui, le fixant de ses gros yeux gris et demandant « Au restaurant, on peut avoir du poulet ?» Le poulet était la seule joie de son existence. Il mangeait assez salement, complétant les taches d'encre par d'autres de graisse. Il ne retirait jamais son veston. Pendant le repas, et à l'exception de Schneider qui cherchait toujours sa réplique, chacun tenta d'engager la conversation. Merlin, le nez dans son assiette, se contenta de quelques grognements et de quelques du dentier qui décourageait rapidement les bonnes volontés. Cependant, l'inspection étant passée, quoique l'envoyé du ministère fût tout à fait déplaisant, il régna vite une atmosphère de soulagement frisant l'allégresse. Le démarrage du chantier avait été assez difficile, on avait rencontré quelques petits problèmes. Dans ce genre d'opération, rien ne se déroule exactement comme prévu, et les textes, même précis, n'envisagent jamais la réalité telle qu'elle vous saute aux yeux quand vous vous mettez au travail. On a beau être consciencieux, il survient des imprévus, on doit trancher, prendre des décisions, et puis ensuite, comme vous avez commencé d'une certaine manière, revenir en arrière. Ce cimetière, maintenant, on avait hâte qu'il soit vide et qu'on en ait terminé. L'inspection s'achevait sur un constat positif, rassurant. Rétrospectivement, chacun avait quand même eu un peu peur. On but pas mal, c'était aux frais de la princesse. Même Schneider finit par oublier l'insulte, préférant mépriser ce fonctionnaire grossier et reprendre du Côte-du-Rhône. Merlin se resservit trois fois du poulet, dévorant comme un affamé. Ses gros doigts étaient couverts de graisse. Lorsqu'il eut terminé, sans égard pour les autres convives, il jeta sur la table la serviette qui ne lui avait servi à rien, se leva et quitta le restaurant. Tout le monde fut pris de court, une vraie bousculade, il fallut en hâte avaler sa dernière bouchée, vider son verre, demander l'addition, vérifier la note, payer. On renversa des chaises, on courut à la porte. Quand ils arrivèrent dehors, Merlin était en train de pisser sur la roue de la voiture. Avant de se rendre à la gare, il fallut repasser au cimetière ramasser la sacoche de Merlin et ses registres. Son train partait 40 minutes plus tard, pas question de rester plus longtemps dans cet endroit, d'autant que la pluie, qui n'avait cessé qu'à l'heure du repas, venait de se remettre à tomber dru. Dans la voiture, il n'adressa pas un seul mot à quiconque, pas la moindre phrase de remerciement pour l'accueil, l'invitation, un vrai Jean-Foutre. Une fois au cimetière, Merlin marcha vite. Ses grosses chaussures faisaient dangereusement ployer les planches qui surplombaient les flaques d'eau. Un chien roux efflanqué le croisa en trottinant. Merlin, sans prévenir, sans même ralentir sa foulée, prit appui sur la jambe gauche et lui balança son énorme pied droit dans les flancs. Le chien hurla, fit 1 mètre en l'air et tomba à la renverse. Avant qu'il ait eu le temps de se relever, Merlin avait sauté dans la flaque, de l'eau jusqu'aux chevilles, et, pour l'immobiliser, lui avait posé sa grosse godasse sur la poitrine. L'animal, craignant d'être noyé, se mit à aboyer de plus belle, se tortillant dans l'eau pour tenter de mordre. Tout le monde était sidéré. Merlin se pencha, agrippa la mâchoire inférieure du chien dans sa main droite, le museau dans la gauche. Le chien couina, se débattit de plus belle. Merlin, qui le tenait déjà solidement, lui allongea un nouveau coup de pied dans le ventre, lui écarta la gueule comme s'il s'agissait d'un crocodile et le relâcha brusquement. Le chien roula dans l'eau, se redressa et s'enfuit ventre à terre. La flaque était profonde, les chaussures de Merlin disparaissaient, ça le laissait indifférent. Il se tourna vers la brochette de délégués ahuris, aligné en équilibre instable sur la passerelle en bois, il brandit alors devant lui un os d'une 20aine de centimètres. « Ça, je m'y connais, c'est pas un os de poulet. » Si Joseph Merlin se révélait un fonctionnaire assez sale, antipathique, un raté de la fonction publique, il était aussi un homme appliqué, scrupuleux et, pour tout dire, honnête. Il n'en avait rien laissé voir, mais ces cimetières lui brisaient le cœur. C'était le 3e qu'il inspectait depuis qu'on l'avait nommé à ce poste dont personne ne voulait. Pour lui, qui n'avait vu la guerre qu'à travers les restrictions alimentaires et les notes de service du ministère des colonies, la première visite avait été foudroyante. Sa misanthropie, pourtant à l'abri des balles depuis longtemps, avait été ébranlée. Non par l'hécatombe proprement dite, cela on s'y fait, De tout temps, la terre a été ravagée par des catastrophes et des épidémies, la guerre n'étant que la combinaison des deux. Non, ce qui l'avait transpercé, c'était l'âge des morts. Les catastrophes tuent tout le monde. Les épidémies déciment les vieillards et les enfants. Il n'y a que les guerres pour massacrer les jeunes gens en si grand nombre. Merlin ne s'attendait pas à être secoué par un tel constat. En fait, une certaine part de lui-même en était restée à l'époque de Francine. Cet immense corps vide et mal proportionné abritait encore un morceau d'âme de jeune homme de l'âge des morts. Beaucoup moins bête que la plupart de ses collègues, dès sa première visite dans un cimetière militaire, en fonctionnaire minutieux, il avait détecté des anomalies. Il avait vu des tas de choses discutables dans les registres, des incohérences maladroitement masquées, mais que voulez-vous ? Quand on considérait l'immensité de la tâche, qu'on voyait ces pauvres Sénégalais trempés, qu'on pensait à cet incroyable carnage, qu'on évaluait le nombre d'hommes qu'il fallait maintenant déterrer, transporter, pouvait-on se montrer pointilleux, intraitable ? On fermait les yeux, voilà tout. Les circonstances tragiques nécessitent un certain pragmatisme et Merlin estimait juste de passer sous silence diverses irrégularités. Qu'on en finisse, bon Dieu, qu'on en finisse avec cette guerre. Mais là, à Chazir-Malmont, l'inquiétude vous étreignait la poitrine. Quand vous recoupiez deux ou trois indices, ces planches d'anciens cercueils jetés dans les fosses et qui seraient enterrés au lieu d'être brûlés, le nombre de bières expédiées par rapport au nombre de tombes creusées, les comptes rendus approximatifs de certaines journées, tout cela vous conduisait à la perplexité, et votre idée de ce qui était juste ou pas s'en trouvait ébranlée. Alors, quand vous croisiez un clébard sautillant comme une danseuse et tenant dans sa gueule un cubitus de poilu, votre sang ne faisait qu'un tour, vous aviez envie de comprendre. Joseph Merlin renonça à son train et passa la journée à faire des vérifications, à exiger des explications. Schneider se mit à transpirer comme en été. Paul Chabord ne cessait de se moucher. Seul l'adjudant Tournier continuait à claquer des talons. Chaque fois que l'envoyé du ministère s'adressait à lui, le geste était entré dans ses gènes. Il n'avait plus de sens. Tout le monde regardait en permanence vers Lucien Dupré qui, lui, voyait s'éloigner ses maigres perspectives d'augmentation. Pour les relevés, les états, les inventaires, Merlin ne voulut l'aide de personne. Il fit de nombreux déplacements jusqu'au stock de cercueils, aux entrepôts, aux fosses elles-mêmes, puis il revint vers les stocks. On le vit de loin s'approcher, partir, revenir, se gratter la tête, tourner ses regards en tous sens comme s'il cherchait la clé d'un problème d'arithmétique. Ça tapait sur les nerfs, hein, cette attitude menaçante, ce type qui ne disait pas un mot. Puis, enfin, il le dit, ce mot.
« Dupré !»
Chacun sentit que l'heure de vérité n'allait pas tarder à sonner. Dupré ferma les yeux. Le capitaine Pradel lui avait spécifié. Hein. Il regarde le travail, il inspecte, il fait des remarques, on s'en fout, d'accord ? Les stocks, en revanche, vous me les mettez à l'abri, hein. Je compte sur vous, Dupré. C'est ce qu'avait fait Dupré. Les stocks avaient migré vers l'entrepôt municipal, deux jours de travail, sauf que l'envoyé du ministère, s'il ne payait pas de mine, savait compter, recompter, recouper les informations et ça n'avait pas traîné. « Il me manque des cercueils, » dit Merlin. « Et il m'en manque même beaucoup et j'aimerais bien savoir où les avez foutus. » Tout ça à cause de cette andouille de clébard qui venait bouffer ici de temps en temps, et il avait fallu que ce soit ce jour-là. Jusqu'alors, on lui avait jeté des pierres, on aurait dû l'abattre. Hein, voyez, être humain, voyez où ça mène. En fin de journée, à l'heure où le chantier, déjà très silencieux, tendu, se vida de son personnel, Merlin, revenu de l'entrepôt municipal, expliqua simplement qu'il avait encore affaire, qu'il dormirait dans la baraque de l'état civil, que ça n'avait pas d'importance. Et il repartit vers les allées de son grand pas de vieillard décidé. Dupré avant de courir téléphoner au capitaine Pradel, se retourna une dernière fois. Là-bas, au loin, registre à la main, Merlin venait de s'arrêter devant un emplacement au nord du cimetière. Il retira enfin sa veste, referma le registre, le serra dans son veston posé au sol et empoigna une pelle qui, sous le coup de son énorme chaussure boueuse, s'enfonça dans le sol jusqu'à la garde.